de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, je vais vous présenter un certain nombre de programmes, comme le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Alors, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, voici le journal d'aujourd'hui. On commence par le titre. Jokowi a rencontré Prabowo pour discuter des options de la coalition. L'Indonésie encourage la coopération entre l'ASEAN et l'Indo-Pacifique. La sensibilisation à la protection de l'environnement en Indonésie augmente, a déclaré l'ambassadeur de Finlande. 26 coureurs étrangers participent à Indonesia Palm Oil Marathon 2019. Les Émirats Arabes Unis sont prêts à investir dans divers secteurs en Indonésie. Chers auditeurs, voici le journal complet. Le président Joko Widodo a invité le président du parti Gerindra au Palais Merdeka vendredi dernier. Après avoir rencontré Prabowo, le président Joko Widodo a déclaré qu'il a discuté d'au moins trois points importants avec Prabowo Subianto. Tout d'abord, Jokowi et Prabowo ont discuté des problèmes économiques mondiaux qui ont tendance à diminuer. Selon Jokowi, le peuple indonésien a besoin de stabilité politique et de sécurité et doit se préparer à faire face au ralentissement économique mondial. Ils ont également discuté du projet de transfert de la capitale à Kalimantan Est. À cette occasion, Jokowi a expliqué l'origine du choix de Kalimantan Oriental comme nouvelle capitale de l'Indonésie. Jokowi et Prabowo ont également discuté de la possibilité d'une coalition entre Gerindra et le gouvernement Jokowi et Ma'ruf Amin. Cette discussion n'est pas finale, mais la discussion sur la possibilité d'une coalition a été commencée. La troisième est également liée au problème de la coalition, mais cette affaire n'est pas définitive. Mais nous avons beaucoup parlé de la possibilité que le parti Gerindra fasse partie de notre coalition. Je pense que ces trois choses dont nous avons parlé plus tôt. Le président du parti Gerindra, Prabowo Subianto, a exprimé son soutien au discours sur le déplacement de la capitale. Selon lui, ce plan a été étudié approprié. En conséquence, le parti Gerindra donnera son soutien. En ce qui concerne le discours de la coalition du parti Gerindra avec le gouvernement, Prabowo Subianto a déclaré que Gerindra donnait la priorité à des intérêts plus importants, à savoir les intérêts de la nation et de l'État. Par conséquent, Prabowo a déclaré que Gerindra était prête à soutenir le gouvernement si nécessaire. Mais son parti était également prêt à devenir un contrepoids extérieur au gouvernement si le gouvernement n'a pas besoin de Gerindra dans le prochain gouvernement.
Kami, Gerindra, selalu mengutamakan kepentingan yang besar, kepentingan besar.
Gerindra, donnons toujours la priorité aux grands intérêts, aux intérêts de la nation et de l'État. Nous nous battons politiquement Dès que c'est fini, les intérêts nationaux sont la chose principale. Je pense que nous devons nous unir. Je lui ai dit, si on avait besoin de nous, nous étions prêts à aider. C'est ce que j'avais dit à la MRT à ce moment-là. Nous donnerons une idée optimiste. Nous croyons que l'Indonésie peut connaître une croissance à deux chiffres. Nous pensons que l'Indonésie peut augmenter rapidement. Nous voulons aider et nous sommes prêts à aider si nécessaire. Si, par exemple, nous ne faisons pas partie du gouvernement, nous resterons loyaux à l'extérieur en tant que contrepoids. Nous n'avons pas d'opposition en Indonésie. Après avoir invité le président du Parti démocrate Susilo Bambang Yudhoyono, le président Joko Widodo a invité le président du Parti Gerindra, Prabowo Subianto, au Palais Merdeka à Jakarta. L'Indonésie a initié la création d'une région intégrée et connectée, ASEAN-Indo-Pacifique, marquée par la signature du document Les perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique par 10 pays de l'ASEAN à la fin de juin. En outre, l'Indonésie encourage la coopération dans divers domaines de la région. Cela a été déclaré par le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Abdurrahman Mohamad Fahir, lors d'une discussion sur le rôle de l'Indonésie dans l'encouragement de la coopération indo-pacifique à Jakarta vendredi dernier. Selon Fahir, après l'adoption par le pays de l'ASEAN et les pays partenaires, la prochaine étape est d'assurer que la coopération entre l'ASEAN et l'Indo-Pacifique profitera à toutes les parties.
Karena yang pertama tadi dari segi pendekatan kan pendekatan inklusif, pendekatan dialog.
Le premier en termes d'approche, l'approche inclusive, le dialogue et la coopération. Ensuite, nous créons divers programmes de connectivité maritime, les objectifs de développement durable et de coopération économique. Cela fait partie de nos efforts pour que les interactions dans la région se déroulent bien et soient rentables. Nous allons refaire l'approche. Il y en a déjà qui ont répondu positivement en créant des programmes. Fahir a dit que la nécessité de l'ASEAN d'unir la vision et la stratégie d'Indo-Pacifique a commencé à émerger après que le président américain Donald Trump a lancé l'idée d'une stratégie libre et ouverte de l'Indo-Pacifique lors de sa visite en Asie en 2017. Des pays tels que l'Australie, la France, l'Inde et le Japon ont également émergé avec leur propre vision et stratégie. Ainsi, les pays de l'ASEAN, comme l'Indonésie, ne veulent pas être marginalisés dans le nouveau système géopolitique. L'initiative ASEAN-Indo-Pacifique a commencé à se traduire par une coopération entre le pays de l'ASEAN et le pays partenaire de l'ASEAN. La Finlande est le premier pays à appliquer le concept d'économie circulaire. L'ambassadeur de Finlande en Indonésie, Jari Sinkari, a déclaré à Voice of Indonesia à Jakarta récemment que l'idée de l'économie circulaire est d'augmenter la croissance économique et protéger l'environnement en recyclant un produit dans de nouveaux produits ou de nouvelles énergies. Selon Jari Sinkari, les Indonésiens, en particulier les jeunes, sont de plus en plus sensibilisés à la protection de l'environnement. Je suis ici depuis un an. J'ai vu cette année des campagnes de plus en plus nombreuses pour la nature et le recyclage. J'ai vu la conscience grandir et je pense que cela commence avec la jeune génération. Jari Sinkari a déclaré que l'Indonésie avait commencé à appliquer le concept d'économie circulaire en évitant d'utiliser des sacs en plastique et recycler les déchets en produits de grande valeur économique, comme par exemple les supermarchés de la ville de Bogor, qui ne fournissaient plus de sacs en plastique gratuits, et l'utilisation des transports en commun en ligne comme moyen de protéger de l'environnement. 26 coureurs étrangers se sont inscrits à la course internationale Indonesia Palm Oil Marathon 2019 qui s'est tenue à Kebun Sosvindo et à PT Perkebunan Nasional 3 à Serdang, Bedagai, dans le nord de Sumatra le 13 octobre. le président du comité Indonesia Palm Oil Marathon 2019, Kacuk Sumarto, a annoncé récemment à Medan que les 26 participants étrangers sont venus du Kenya, du Japon, de Singapour, d'Allemagne et du Royaume-Uni. Il faisait partie du nombre total de participants qui avaient enregistré jusqu'à 2127 personnes. Selon Kacuk Sumarto, Indonesia Palm Oil Marathon 2019 vise à promouvoir le palmier à huile à la fois pour les entreprises de plantation d'huile de palme, les industries et les produits dérivés de ces produits utilisant un système durable. Le ministre coordinateur des Affaires maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré récemment que les Émirats arabes unis étaient prêts à investir en Indonésie dans divers secteurs. Selon lui, le développement allait si vite parce que la réponse des dirigeants des deux pays est très rapide, notamment le prince héritier Mohammed bin Zayed, qui s'était rendu en Indonésie et a rencontré le président Joko Widodo. L'un de ces secteurs est le développement d'une réplique de la grande mosquée d'Abu Dhabi qui sera construite à Solo, qui deviendra un centre islamique. En outre, il existe un investissement dans l'agriculture. L'équipe des Émirats Arabes Unis ont également envoyé une équipe de la marine pour acheter 3 LST ou Landing Ship Tank fabriqués en Indonésie. Voilà le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine d'aujourd'hui, dont le titre est « Le parti intégral de la Papouasie en Indonésie ». Le ministre de la Défense, Riamizat Riyakudu, a souligné que la Papouasie faisait partie intégrante de l'Indonésie. On n'avait donc plus besoin de débattre. Riamizat Riyakudu, quand il a salué des communautés papoues et papoues occidentales à Abipura, Jayapura, Papouasie, il a invité les papous à développer la Papouasie en une société juste et prospère. Il a ajouté que depuis la proclamation de l'indépendance en 1945, le gouvernement indonésien légitime s'était emparé de tous les territoires néerlandais, y compris de la Papouasie. En cette ère de mondialisation, Riamizat a également rappelé de renforcer l'identité de la nation. Il a déclaré que à cette époque, l'identité forte et l'unité nationale seront les gagnants, tandis que pour les perdants, on continuera à exploiter leurs richesses naturelles. À cette occasion, a ajouté le ministre de la Défense, Pancasila était le ciment du peuple indonésien de Sabang à la Papouasie, de l'île Rote à l'île Miangas, et Pancasila s'est avéré efficace pour unifier des milliers de différences d'origine ethnique, de culture, de race et de religion. Auparavant, le ministre Riamizat Riyakudu avait rencontré sept chefs traditionnels de Papouasie et de Papouasie occidentale. Au cours de la réunion, il a apporté un message de paix et d'harmonie pour l'avenir de la Papouasie, sûre, pacifique et prospère dans le cadre de la République unitaire d'Indonésie. Selon lui, c'est le temps pour le peuple de Papouasie de mener des activités communes, de se coordonner, de rester en contact et de mener des discussions avant de parvenir à un consensus afin de créer la paix sur la terre de Cendrawasih. Riamizat a déclaré qu'il se sentait honoré de pouvoir revenir en Papouasie. Lors d'une réunion avec des représentants de cette Papouasie autochtone, Riamizat était accompagné par un certain nombre de responsables du ministère de la Défense, tels que le brigadier général de Papouasie, Yakobus, et le chef d'état-major régional militaire de Cendrawasih, le brigadier général Ilham Waroihan. Tandis que l'un des chefs traditionnels de la Papouasie occidentale, Nando, a déclaré « Tout appuie l'engagement du président Joko Widodo de faire progresser le pays papou ». Il a déclaré que les progrès apporteraient la paix en Papouasie. Pour cela, on espère qu'au cours de cette deuxième période, le président Jokowi sera capable d'ouvrir des régions isolées et de s'étendre à des zones assez vastes. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 13 octobre. Le 13 octobre 1952, Margaret Thatcher est née. Margaret Hilda Thatcher est une femme politique britannique, la première ministre du Royaume-Uni, qui a servi le plus longtemps du XXe siècle, de 1979 à 1990, et a été la seule femme à occuper ce poste. Une journaliste soviétique l'a surnommée Iron Lady, un terme qu'on a associé par la suite à sa politique et à son style de leadership. En tant que première ministre, elle a mis en œuvre des politiques conservatrices qui s'appelleraient plus tard le thatcherisme. Le 13 octobre 1976, un avion bolivien s'est écrasé. Un Boeing 707 s'est écrasé à Santa Cruz, en Bolivie, et a tué 100 personnes. L'avion s'est écrasé à un bâtiment du centre-ville et a détruit un terrain de football situé à proximité de la piste. L'avion a perdu le contrôle de l'un de ses quatre moteurs après son décollage à 13h30 heure locale. La responsable de l'aviation bolivienne a déclaré que certaines personnes avaient entendu l'explosion avant que l'avion ne se soit écrasé et ils ont vu l'un des moteurs de l'aile gauche en feu. Les débris d'aéronefs sont ensuite tombés sur un magasin et ont finalement détruit le terrain de football utilisé. On a rapporté que plusieurs spectateurs ont été tués au terrain. L'appareil appartenait à Jet Power Inc. à Miami en Floride et la compagnie aérienne nationale Lion Aereno Boliviano le louait. Avant de subir un accident mortel, un Boeing 707 avait livré un moteur pour la production de puits de pétrole et d'autres produits de Houston, Texas à Santa Cruz. Le 13 octobre 2010, la Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles. La Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles a été conclue par l'Assemblée générale des Nations unies pour encourager les citoyens et le gouvernement à édifier des communautés résistantes aux catastrophes naturelles. Au début, on l'avait averti tous les deuxièmes mercredis d'octobre. Ce jour de commémoration fait partie de la proclamation de la décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles qui a débuté en 1990. En 2002, une nouvelle résolution de l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de poursuivre ses efforts pour réduire l'impact et atténuer les catastrophes naturelles mondiales en créant chaque année une commémoration internationale. En 2009, l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 13 octobre comme la Journée internationale de la prévention des catastrophes. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Thank you.
Voilà la chanson intitulée Hai, chantée par Monita Tahalea. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, sous l'onde courte de 3,3 de 5 kHz. Et aussi toujours avec moi, Tiwi, qui vous accompagne pendant 60 minutes. La rubrique suivante, voici Mon Indonésie. Voice of Indonesia avec Mon Indonésie, intitulée Le succès des Jeux Asiatiques 2018 marque le début de la gloire du sport indonésien. Le ministre de la Planification du Développement National, ou le chef de Bappenas, Bambang Brojonegoro, a déclaré que la réussite de la mise en œuvre des Jeux Asiatiques 2018 marquait le début de la gloire du sport indonésien. Cela a été dit par Bambang lors du séminaire de réflexion d'Annan des Jeux Asiatiques 2018 et du plan indonésien d'amélioration des performances sportives du bâtiment Bappenas à Jakarta jeudi dernier. Il y a un an, le 18e Jeux Asiatiques avait été un succès à Jakarta et à Palembang. Le succès implique trois choses, à savoir le succès de l'organisation, de la réalisation et de l'économie. Du côté de l'organisation, la mise en œuvre du deuxième plus grand sport après les Jeux Olympiques a concouru avec succès, avec 40 branches de sport réunissant 465 matchs et 11 720 athlètes, en hausse de 20% par rapport aux Jeux Asiatiques de 2014 à Incheon en Corée du Sud. En fait, cela a été capable de rallier environ 1,7 million de touristes nationaux et 78 000 touristes étrangers, 40 succursales avec 465 numéros de match et plus de 16 000 participants, soit une augmentation de 20% par rapport aux participants aux Jeux Asiatiques de Incheon 2014. De plus, du côté de réalisation, l'Indonésie a gravé une nouvelle histoire en se classant 4e du tableau de médailles. Selon Bambang, cet élan ne devrait pas simplement disparaître. En outre, lors de la tenue des Jeux Asiatiques les années précédentes, l'Indonésie avait toujours du mal à obtenir une médaille d'or. En ce qui concerne l'amélioration économique, une étude de Bappenas et de l'Institut de Recherche Économique et Sociale, Faculté des Sciences Économiques et Commerciales de l'Université d'Indonésie, a révélé que la plupart des visiteurs des Jeux Asiatiques dépensaient de l'argent pour acheter des souvenirs, hôtels, aliments et boissons, les dépenses de tourisme étranger s'élevant à 1,9 billion de roupias et les dépenses touristiques antérieures s'élevant à 1,8 billion de roupias. Cela montre une croissance économique nationale d'environ 0,05%. Avec ce succès, a déclaré Bambang, l'orientation de l'Indonésie doit changer, non plus aux Jeux Asiatiques du Sud-Est, mais aux Jeux Asiatiques et aux Jeux Olympiques. Selon lui, les Jeux Asiatiques du Sud-Est ne sont qu'une épreuve de préparation et d'essai pour les athlètes juniors avant de pouvoir participer aux championnats internationaux. En outre, avec les réalisations des Jeux Asiatiques de 2018, on espère que l'Indonésie pourra remporter plus de médailles d'or lors d'un événement sportif plus important, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. C'est tout mon Indonésie.
Ini bukan cerita langka, tak sedikit orang melakukan. Apa artinya? Ternyata berpisah. Nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita. Tutup mata. nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita realita. Tutup mata, tutup telinga, perhitungan pun tak ada. Siapa yang pernah mencoba? Nafsu dulu baru logika, tinta biru tinggal cerita realita. Oh. Tutup mata, tutup telinga, perhitungan pun tak ada realita. Realita.
C'était la deuxième chanson intitulée Realita, ou en français la réalité, chanté par 420. En plus de la fréquence de 3,35 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons vous présenter Pisang Mulut Bebek, ou en français, la banane à la bouche de canard, l'un des culinaires de Halmahera, Maluku. On trouve couramment la banane à la bouche de canard à Halmahera Ouest et Halmahera Nord. On appelle pisang mulut bebek, qui signifie la banane à la bouche de canard, parce que cette banane a une forme élancée et longue courbe comme une bouche de canard. La couleur de la peau ne jaunit jamais, même si elle est mûre. Cette banane à la bouche de canard a une texture dure et croquante, dont le goût est aigre et sucré, sans haute teneur en eau. On peut déguster cette banane pour remplacer le riz avec des accompagnements au goût salé ou sucré. Chers auditeurs, la banane à la bouche de canard, ou les Maluku l'appellent pisang mulut bebek, on peut la également sauter pour le grignotant de l'après-midi, accompagner la boisson bien-aimée des habitants d'Halmahera Nord, air guraka ou l'eau guraka. Air guraka ou l'eau guraka est une boisson à base d'eau de gingembre et de sucre de palme, saupoudré de noix. La banane frite provenant de la banane à la bouche de canard est très délicieuse. Comment faire de la banane frite à la bouche de canard? C'est très facile. Tout d'abord, coupez la banane, puis frite la banane dans l'huile chaude. Puis, vous devez également préparer un verre d'eau mélangée à 2 cuillères de sel. Ensuite, versez une cuillère d'eau salée sur la banane frite dans l'huile chaude. Faites frire la banane jusqu'à ce qu'elle soit vraiment croustillante. Après cela, prenez la banane croustillante et servez-la. Chers auditeurs, pour manger des bananes frites à la bouche de canard, c'est incomplet s'il n'y a pas de sauce de dabu-dabu, une sauce typique de Maluku. Pour faire de la sauce dabu-dabu est également facile. Les ingrédients sont les tomates, les piments, la pâte de crème, crevettes grillées, un peu d'oignon et l'huile utilisée pour faire frire les bananes. Après que tout soit prêt, dégustez la banane frite à la bouche de canard plongée dans la sauce de Dabu Dabu. Vous voulez le manger en continu. Chers auditeurs, voilà l'Indonésie en couleur sur le thème de la banane à la bouche de canard, originaire de Halmahera en Molouk. Chers auditeurs, c'était la chanson de Baraswara, intitulée « Guna Manusia ». Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur. Voice of Indonesia avec l'Indonésie en couleur. Aujourd'hui, on parle des étudiants de l'ITB. Développe des masses à base de déchets. Trois étudiants en génie de matériaux d'ITB ont remporté la première place au concours de génie de matériaux innovants de 2019, ou en anglais, Innovative Material Engineering Competition, ou abrégé en IMEC 2019. Le concours national d'écriture scientifique s'est tenu à l'Institut de technologie le 10 novembre de Surabaya, le 24 et 25 septembre 2019. IMEC 2019 a pour thème le rôle de l'innovation matérielle dans la révolution industrielle 4.0 en Indonésie. Lors de cette compétition, les équipes de l'ITB ont rivalisé avec d'autres participants de l'Institut de technologie de 10 novembre, de l'Université de Gajah Mada, l'Université de Brawijaya, de l'Université d'Indonésie et de l'Université de Riau. Lors de la compétition, l'équipe a mené des recherches sur la biomasque. C'est un masque dont les ingrédients de base sont fabriqués à partir de déchets. L'équipe combine les fonctions de protection solaire et de masque. Les ingrédients de base du biomasque sont constitués de nanocellulose, de déchets de bananes, de coquilles de crevettes et de biomasse de lierre anglais. Ces ingrédients ont inclus des fonctions en tant que masque, antimicrobien et anti-UV. Les avantages de cette biomasque sont la combinaison de deux produits, les masques et l'écran solaire. L'écran solaire sert à protéger la peau contre les rayons ultraviolets, tandis que les masques maintiennent l'humidité de la peau et la rend antimicrobienne. Du côté de la production, la biomasse utilise des matériaux de déchets, ce qui rend le processus de production plus efficace. Du point de vue de l'environnement, ce produit est fabriqué à partir de matériaux biodégradables, dont il n'a pas d'impact néfaste à long terme. Ce produit présente également un avantage économique, car il est capable de soutenir la concurrence. Un autre membre de l'équipe, Henning, a expliqué en détail la conception et l'application des produits biomasques. La conception des masques à base de biomasse, ou biomasque, est semblable à un masque en feuilles qu'on utilise avant de se déplacer à l'extérieur. Ce masque hydrate et nourrit la peau tout en contenant des agents actifs qui pénètrent dans la peau et agissent comme un anti-UV. Après avoir utilisé ce masque, on n'a pas besoin d'appliquer de crème solaire. Voilà l'édition de l'Indonésie en couleur, ayant pour thème les étudiants de l'ITB développent des masques à base de déchets.
Jangan kau khawatir sahabatku, langit tak
telah bersinar. Esok kita kan berlayar lagi. Yang seakan tak lepas dari jalanmu, mengurung semua ruangmu, dan hanya kecewa jadi pijakan. Kini ku kan ada di sampingmu.
Voilà la chanson de The Cinnamons, intitulée Berlayar Lagi. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Dans cette édition, je vous donne une chanson intitulée Sudah Sudahlah, chantée par Rama Davis et Alika. La chanson dont le titre est Sudah Sudahlah, qui signifie Ça suffit, a été créée par Rama Davis, Alika et Kevin Ruenda. Cette chanson raconte des sentiments de toutes les personnes qui subissent une relation compliquée et qui la finissent. Par cette chanson, Rama et Alika veulent faire comprendre à tous les auditeurs que aimer votre-même est la chose la plus importante de la vie. Bon, chers auditeurs, voici Sudah Sudahlah, ou en français Ça suffit, chanté par Rama Davis et Alika. Bonne écoute!
Suka tak ada ruang, kau tahu ku tak suka. Mengapa kau selalu datang menggangguku di hari yang nyaman tanpa kamu?
Bukannya aku tak percaya kamu, ku ingin kau bagi waktu bersamaku. Berkali-kali kau tak balas pesanku, takkan nyaman aku tanpa kamu. Sudah-sudahlah, akhiri semua.
Dirimu,
diriku
tak baik bersatu. Sudah-sudahlah kita akhiri segera.
tapi diri ini harus lebih dicinta.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Tak letih membasahi pagi. Voice of Indonesia.
C'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Je m'appelle Tiwi, je m'en vais.